Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
Ancien ministre de l'Intérieur, il est aujourd'hui le chef des députés En Marche à l'Assemblée. Bonsoir Christophe Castaner.
Bonsoir.
Et bienvenue dans RTL Soir. Est-ce que vous connaissez les 7 péchés capitaux ?
Eh bien écoutez, j'ai assisté hier à, non pas à l'origine des 7 péchés capitaux, mais à ce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, évoquait comme des difficultés structurelles du ministère de l'Intérieur.
Mmh. Il a cité les problèmes de formation, problèmes d'encadrement, problèmes de moyens, problèmes avec l'IGPN, la police des polices, problèmes d'effectifs, problèmes dans le lien avec la population. N'en jetez plus, monsieur le procureur, c'est le réquisitoire le plus sévère que l'on a jamais entendu sur la police. Elle va aussi mal que ça, la police de la République ?
La police est dans une vraie difficulté, dans une nation qui elle-même est en difficulté. Et le diagnostic qu'a fait Gérald Darmanin est juste et bon, je l'ai fait aussi dans mes responsabilités.
Il noircit pas le tableau, là.
Non, il évoque de vraies difficultés structurelles qui existent. Vous savez, j'ai le souvenir, par exemple, d'avoir organisé en début d'année une conférence citoyenne avec une centaine de citoyens qui étaient venus de la France entière sur la question de la relation entre les Français et leur police. J'ai le souvenir, sur la question matérielle, de m'être battu pour augmenter les moyens matériels de la mise en œuvre de la sécurité par les forces de police.
C'est pas suffisant, visiblement.
J'ai le souvenir, le 8 juin, d'avoir fait une conférence de presse qui portait comme message « tolérance zéro ». Contre le racisme dans la police.
Puis réforme, réforme de l'IGPN aussi à l'époque, vous disiez.
Et j'annonçais la volonté de réformer. D'ailleurs, c'est un souvenir un peu cruel, parce que vous vous souvenez la réaction à laquelle j'ai dû faire face sur la thématique. Non, non, il ne faut pas parler de ces sujets-là. J'ai eu une sorte de fronde, des mobilisations policières qui dénonçaient mes propos. Je pense que les problèmes sont structurels et que Gérald Darmanin a raison de les poser ainsi et de vouloir se battre pour les résoudre. C'est nécessaire d'avoir un lien fort entre la police et nos concitoyens.
Sur la réforme de l'IGPN, la police des polices, c'est un sujet dont vous allez vous saisir au Parlement, ça ou pas ?
D'abord, c'est de l'organisation interne du ministère. Et moi, j'ai toute confiance dans les travaux qui seront conduits sous l'autorité du Premier ministre pour répondre à la commande politique faite par le Président de la République, au Premier ministre, à Gérald Darmanin, au ministre de la Justice. Ils vont nous faire des propositions. Et s'il faut un véhicule législatif, excusez-moi du terme technique, nous pourrons évidemment accompagner le gouvernement.
Alors, c'est l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale qui a mis le feu aux poudres. Vous allez devoir le réécrire, cet article. Vous allez réécrire quoi ? La même chose avec des mots différents, c'est quoi l'idée ?
Non, il y a une vraie incompréhension sur cet article qui pourtant était clair, qui visait un double objectif. Celui de garantir la sécurité des policiers, des gendarmes, des policiers municipaux dans leur vie privée. Parce qu'ils font l'objet trop souvent d'un harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux et principalement sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a eu cette volonté de faire
Mais
en sorte que...
Mais ça a été compris comme une volonté de censure. Et beaucoup s'ont dit, tiens, avec cet article-là, on n'aurait sans doute pas vu la vidéo de Michel Zecler.
Ben, ça n'aurait pas été le cas. Et avec cet article-là, on aurait vu la vidéo de Michel Zecler. On aurait vu ces actes scandaleux et condamnables de ces policiers qui font le déshonneur de la police en faisant cela. Mais il y a eu une vraie incompréhension. De nombreux journalistes ont considéré que ce texte menaçait la liberté d'expression. Et je considère qu'on ne négocie pas la liberté d'expression et encore moins la liberté de la presse.
C'est juste un problème de forme et d'écriture. C'est pas un problème de fond ?
Non, je pense que l'objectif, il est partagé par tous, y compris par les journalistes, celui de garantir dans leur vie privée la protection de nos forces de sécurité intérieure, d'eux et de leurs familles, de leurs enfants qui quelquefois sont menacés. Mais le chemin que nous avions pris n'était pas le bon. Parce qu'il a été incompris. Alors je peux soit considérer que c'est l'ensemble de ceux qui se sont exprimés sur le sujet, et en particulier dans la presse, qui se sont trompés et seraient idiots. Je peux aussi considérer que c'est notre rédaction qui n'était pas la bonne. Donc la volonté construite autour du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement, pour les parlementaires, c'est de dire qu'il faut réécrire totalement cet article pour que notre objectif de soutien à nos forces de sécurité, de protection, et on leur doit bien protection, soit atteint, et en même temps qu'on ne négocie pas et qu'on ne laisse pas penser qu'on pourrait faire reculer la liberté de la presse.
Et c'est pour quand ? Quel est le calendrier ?
Notre objectif, c'est, sous l'autorité de la Commission des lois de l'Assemblée, de faire des consultations dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, et que nous puissions proposer au gouvernement une rédaction avant Noël.
Donc avant Noël. Mais du coup, là, vous parlez d'une commission de l'Assemblée, mais la commission indépendante du Parlement souhaitée par Jean Castex, qui a mis en colère à peu près tout le monde, elle devient quoi, cette commission ?
C'est une commission qui va conseiller le gouvernement, ça arrive assez régulièrement, mais par contre, elle n'a pas vocation à écrire la loi. C'était une maladresse que de le penser.
C'était une erreur. C'est une faute politique.
C'est pas une faute politique. Vous savez, je crois que les fautes politiques, c'est celles qui ont des conséquences sur le quotidien des Français. Celles qui alimentent le débat politique et le microcosme des journalistes et du monde politique, dont vous et moi faisons partie, ne sont pas des fautes politiques essentielles. Et donc, c'est une erreur. Et donc, nous avons corrigé le tir. J'ai échangé immédiatement, quand j'ai eu cette information, avec le Premier ministre, un peu plus tard avec Gérald Darmanin. Et et nous sommes convenus d'un chemin qui permet de respecter les droits du Parlement, et c'est essentiel, mais qui en même temps permet au gouvernement de s'appuyer sur l'expertise de femmes et d'hommes qui peuvent avoir un regard différent de celui des parlementaires, mais pour conseiller le gouvernement, pas pour faire la loi.
Un de vos prédécesseurs au ministère de l'Intérieur était assis à votre place hier dans ce studio, et voici ce qu'il disait, c'est Jean-Louis Debray.
Quand on est dans cette situation, il faut d'abord être à l'écoute des gens et ne pas persister dans l'erreur. Tout ça, c'est la politique de gribouille. C'est la politique de gribouille. Et en plus, on fait éclater sa propre majorité. Vraiment, alors, changeons tout le monde et prenons de vrais professionnels.
Il n'est pas tendre, Jean-Louis Debray. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire qu'il n'a pas complètement tort ?
Bon, il m'arrive de dire qu'il peut avoir raison, souvent, parce que j'écoute Jean-Louis Debray et c'est un homme sage aujourd'hui. Lui-même a quelques expériences ministérielles, il connaît un peu le trouble de la fonction.
Là, il dit qu'il y a de l'amateurisme derrière tout ça.
Non, mais il dit par exemple que quand on est sur un chemin où il y a de la compréhension, il faut savoir le reconnaître. C'est ce que j'ai fait au début de notre entretien, c'est ce que le ministre de l'Intérieur a fait aussi. Après, vous savez, et notamment vis-à-vis du ministre de l'Intérieur et la fonction que je connais bien, je sais combien cette fonction est difficile.
Et donc, on peut se tromper, on peut faire des faux pas. Il s'est trompé, Gérald Darmanin. Il y a eu un petit péché de vanité.
Ni péché de vanité. Il y a eu la volonté du ministre de l'Intérieur de donner plus de protection à ceux qui nous protègent, c'est-à-dire nos policiers, nos gendarmes.
Il y a aussi ceux qui disent, il pense surtout à lui, il pense à sa carrière, il trace sa route et il fait pas attention au reste.
Moi, au quotidien, ça n'est pas l'homme que j'ai en face de moi. J'ai un ministre de l'Intérieur totalement dévoué à sa tâche, avec l'ambition de protéger les policiers, de leur donner plus de moyens. J'ai conduit ce ministère.
Vous parlez bien de quelqu'un que vous n'aimez pas beaucoup quand même.
Vous savez, en politique, on n'est pas là pour s'aimer. Ça relève du registre de la vie privée. Ouais. Par contre, je vous dis le vrai respect que j'ai pour Gérald Darmanin.
C'est un bon
j'ai
ministre cheminé. De l'Intérieur ?
Je trouve que c'est un bon ministre de l'Intérieur parce qu'il se bat pour la sécurité des Français. Et la sécurité d'un Français implique des moyens renforcés pour les forces de sécurité intérieure, pour la sécurité civile, pour tous ceux qui relèvent, les préfets aussi, qui relèvent du ministère de l'Intérieur.
Parmi les affaires qui font du bruit, Christophe Castaner, il y en a une qui vous concerne. Le 1er décembre 2018, Zineb Redouane, une femme de 80 ans qui regardait de sa fenêtre une manif de gilets jaunes à Marseille, était touchée par une grenade. Elle décédera le lendemain à l'hôpital. Aujourd'hui, sa famille et son avocat ont porté plainte. Ils veulent que vous soyez jugé devant la Cour de justice de la République. Ils estiment que l'enquête a été trompée, que vous avez directement donné l'ordre de ne pas saisir le lance-grenade pour entraver l'enquête et que vous êtes mis d'accord avec le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux, pour donner la même version des faits et disculper la police. Est-ce que vous avez cherché, Christophe Castaner, à étouffer cette affaire quand vous étiez ministre ?
Non, mais d'abord, j'ai une pensée pour la famille de Zineb Redouane, parce que cette dame est morte après avoir été atteinte par un éclat, semble-t-il, d'un tir de grenade lacrymogène. Puis, selon ce qui a été indiqué à l'époque par le procureur et les autorités médicales, lors d'un choc opératoire le lendemain ou le surlendemain. Par contre, j'ai lu dans Le Monde d'ailleurs, et je suis très surpris parce que Le Monde a fait un papier sur ce sujet sans même me passer un coup de fil et sans qu'on me sollicite, et je vous remercie de me poser la question, qu'il était question d'échange avec le procureur, voire d'instruction concernant l'arme qui permet de tirer. Je ne sais même pas qui est le procureur, je n'ai jamais eu aucun échange avec le procureur et je n'ai donné aucune instruction concernant l'arme de tir.
On n'est pas dit qu'il ne fallait pas saisir le lance-grenade à aucun moment.
Non, mais tout ça est un pur fantasme d'avocat qui cherche à briller devant ses clients.
Est-ce que vous avez cherché à étouffer l'affaire, Christophe Castaner ?
Or, il y a une personne qui est morte et je trouve ça pathétique, franchement. Et donc, en aucun cas, ces accusations ne sont fondées. En aucun cas, j'ai cherché à étouffer l'affaire. En aucun cas, je n'ai donné une quelconque instruction sur ce dossier, ni en amont, ni au moment des faits, ni après, parce qu'immédiatement, la justice a été saisie. La difficulté pour l'avocat, c'est que manifestement, l'ensemble des enquêtes et aussi des études qui sont faites d'un point de vue technique montrent que, y compris, il n'y avait pas de tir direct des policiers, que c'est un accident. L'expertise médicale faite en France a parlé de choc opératoire, mais l'avocat veut manifestement raconter une histoire. Ce que je regarde, c'est qu'il y ait zéro contradictoire, y compris quand un grand journal étale comme cela cette référence-là. Et donc, je peux vous le dire, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le fait de savoir si cette plainte prospérera, c'est-à-dire aura des suites, parce que tout ça relève de l'invention, de la pure invention, mais je regrette. Je regrette parce que je pense à cette dame et je pense à sa famille, je pense à la tristesse de cette fille, sa fille qui porte plainte contre moi et qui, et je ne lui en veux pas, au nom de cette tristesse, peut me faire ces reproches-là, mais je regrette qu'on lui ait laissé penser que ce que l'avocat raconte soit vrai.
Deux questions encore rapidement pour finir, s'il vous plaît. Que vous a dit Jean Castex ce matin en réunion de groupe à propos de la réforme des retraites ? Est-ce qu'elle va se faire? Est-ce qu'elle va se faire vite? Est-ce qu'elle va se faire quand?
Ça n'a pas fait partie des sujets qui ont été abordés. Ouais. La question du calendrier ne l'a pas été. Mais vous savez que la réforme pour une réforme plus juste des retraites est un sujet sur lequel Emmanuel Macron a été élu, d'ailleurs, et on ne l'a jamais caché. C'est une réflexion...
Vous y êtes favorable pour que ça se fasse, que ce soit une priorité absolue, comme le dit Bruno Le Maire?
Moi, je suis favorable à sauver les retraites. Or, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir si dans ce pays, on peut ou pas espérer, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, avoir une retraite. Donc oui, il faut regarder aussi cette
réalité-là. Donc il faut la faire avant la fin du quinquennat.
Non, je ne vous dis pas ça, et je pense qu'il faut aussi une réforme plus juste, parce qu'aujourd'hui, le système des retraites dans notre pays n'est pas juste. Et donc, il faut aussi se poser cette question. On peut, comme on aime bien le faire souvent, fermer les yeux et faire comme si de rien n'était. Il y a dans ce pays aussi un problème d'injustice sur les retraites.
Donc, si j'ai bien compris, il faudra le faire, mais pas tout de suite.
Non, non, je ne vous parle même pas de calendrier. À votre question, le Premier ministre ce matin ne s'est pas exprimé sur cela.
Dernière question, Emmanuel Macron veut empêcher les Français d'aller skier à l'étranger, notamment en Suisse à Noël. Et il a dit tout à l'heure que le gouvernement allait prendre des mesures restrictives et dissuasives. Alors c'est quoi des mesures restrictives et dissuasives?
Je n'ai pas cela en tête, mais le principe est simple. Le principe est que si nous fermons les stations de ski dans la dimension Saskonski que nous connaissons, je suis député des Alpes de Provence avec des stations de ski et je sais l'impact économique que cela a, c'est tout simplement parce que nous voulons éviter la propagation du virus. Et s'il y a des gens qui décide d'aller affronter le virus alors que derrière, le virus a besoin pour venir d'un pays étranger d'être porté par un individu, effectivement, il faudra faire des contrôles. Il n'est pas question que ceux qui ne pourront pas aller au ski en France puissent demain être infectés par le virus par ceux qui auront décidé d'aller skier en Suisse ou en Autriche.
Ce n'est pas une décision absurde pour masquer une décision bancale qui a condamné nos stations, y compris celles qui sont dans votre département?
D'abord, ce n'est pas une décision bancale de la France qui condamne nos stations. Je vous parle de la Suisse ou de l'Autriche, mais on peut aussi parler de l'Allemagne, on peut parler de l'Italie qui, pour des raisons médicales, ont décidé, comme la France, de fermer leurs stations de ski. C'est cela l'enjeu. L'enjeu, c'est les raisons médicales. Alors, on peut, là encore, fermer les yeux et se dire qu'on peut faire un confinement Canada Dry et qu'on peut sortir du confinement en disant il n'y a plus de problème, on continue. Et on s'interrogera dans 2 mois, dans 3 mois, sur les causes de la nouvelle propagation du virus. Ben non. Il faut tout faire pour empêcher qu'on soit dans une situation de devoir reconfiner le pays.
Merci beaucoup, Christophe Castaner, d'être venu ce soir dans RTL Soir. Dans un instant, ce sera l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous avez passé un bon week-end, ça va?
Bon, écoutez, pas mal. J'ai regardé Mike Tyson. Et je me suis dit, quand donner des coups vous manque, y a deux solutions. Soit on remonte sur le ring, soit on rentre dans la police française.
Sens que vous êtes dans la mesure.
Je peux dire du bien, Christophe Castaner?
Allez-y.
Ça n'arrivait pas, les violences, quand il y avait Christophe Castaner. Parce que les policiers étaient plus détendus. Ils sortaient en boîte avec vous. Donc, du coup, ils faisaient une petite bamboche et ils étaient moins tendus. Il se battait moins, voilà.
Je ne suis pas sûr que M. Castaner ait envie de répondre sur cette question-là.
Non, mais il a raison, je suis sorti ces 10 dernières années une fois dans un restaurant qui fait boîte de nuit. Mais manifestement, c'était un sujet suffisamment important pour qu'on en parle ce soir
aussi,
sur RTL.
Moi aussi, avec ma femme, une fois je sors, je me fais gauler.
C'est une chronique humoristique, l'œil de Philippe Cavrivière, ce n'est pas un sujet politique.
Il n'y a aucune ambition journalistique.
Je l'entends bien, et ce soir-là, nous ne nous sommes pas vus.
Il n'y était pas. Vous m'enverrez quand même les photos, M. Castaner. Merci beaucoup, à tout de suite après le rappel des titres.
RTL Soir.